You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes lives Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute.
Oh my god, Internet, ça va ou quoi?
C'est quoi le problème? Je suis un peu zinzou? Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte.
J'espère que vous êtes ready pour la dingue.
Pas la peine d'être désagréable.
Et y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner.
Ok.
Oh my god! It's been 84 years.
Ah, ça va ou quoi, Internet? Bonne année, au fait. Meilleurs vœux.
On va faire un petit live tranquille, on va juste papoter de comment ça va, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps où on ne se voyait plus sur Internet, et qu'est-ce qui va se passer, puisque 2024 commence avec, ma foi, plein de beaux projets, dont le retour des lives. Voilà, c'est pas un one-shot, on va revenir régulièrement, et plein d'autres choses dont je peux vous parler, et même des choses dont je ne peux pas vous parler, car elles sont secret défense. Mais voilà, on se remet au charbon. Et en attendant, ces derniers temps, vous avez quand même pu me croiser sur Internet à diverses reprises, notamment, si vous ne le savez pas, vous avez tellement d'épisodes à rattraper dans le Fab et Mimi Show, une nouvelle émission qu'on a lancée en septembre avec Fabrice, n'est-ce pas, Fabrice Florent ? Fabrice Florent ! Et dans lequel on fait ce qu'on fait de mieux, à savoir parler beaucoup trop longtemps dans des micros. On a plein de rubriques, genre la hot take, où on parle d'opinions clivantes, Mars et Vénus, où on s'interroge sur notre place d'hommes et de femmes, respectivement, dans cette saucisse patriarcale qui est la nôtre. On a évidemment une question sexo, on a la boule noire, où on raconte finalement une grosse loose. On a plein de vocaux des auditeurs et auditrices. Pour l'instant, ça sort un lundi sur deux sur YouTube et en podcast. On a un petit Patreon affilié et tout. Et on a bon espoir de le passer en hebdo assez vite. Voilà, ça fait un moment qu'on dit ça. On voulait d'abord tester la formule un lundi sur deux parce que c'est quand même des épisodes de 2h30, 3h. Donc ça fait, voilà, pour en tourner un par semaine, il faut quand même se dégager un petit peu de temps. On voulait voir si ça vous plaisait, si ça marchait. Nous, ça nous plaît, ça c'est sûr. Et bah, apparemment, ça vous plaît puisque on a plein de retours positifs. Merci. Donc si jamais vous n'avez pas entendu parler du Fab et Mimi Show, déjà, vous devriez me suivre sur les réseaux puisque c'est à peu près tout ce que j'ai posté ces trois derniers mois. Et aussi, si vous aimez m'écouter parler pendant 3h, si vous êtes sur cette chaîne, a priori c'est le cas, abonnez-vous, vous en aurez pour votre argent. Comment vous allez? Est-ce que vous avez passé des bonnes fêtes? Est-ce que vous avez des choses dont vous voulez qu'on parle? Et après, enfin, de toute façon, j'ai mes petits sujets. Et même, j'ai fait une boîte à questions anonyme sur NGR, Not Gonna Lie. Et je l'ai partagée sur Insta et sur Threads hier, puisque j'ai décidé d'être sur Threads, parce que Twitter, complicado, comme vous le savez. Et c'est des questions anonymes que vous m'avez envoyées. Et du coup, j'ai noté les questions et je les ai mises par ordre pour faire genre crari, un conducteur, un plan. J'étais évidemment en train d'écrire à 20h44 avant de lancer le live, donc on n'est pas hyper ready to go, mais vous savez quoi, on est bonne en impro aussi. Alors, la première question qu'on m'a posée sur NGL, à laquelle je vais répondre, c'est bien évidemment et tout simplement, comment vas-tu? Eh bien, écoutez, ça va mieux, ok? On est sur la pente qui remonte, donc ça c'est cool. Pour vous refaire un point contexte, au cas où vous ne m'avez pas entendu en parler dans le Fab et Mimi Show, puisque je n'en ai parlé que là-bas et pas spécialement sur Twitch, puisque j'ai arrêté les lives avant. J'ai été officiellement diagnostiquée en dépression en septembre dernier. Après, ça fait des années que je suis en thérapie, ça c'est normal et j'en suis très contente. Mais on avait déjà fait un live santé mentale en première moitié de 2022, je ne sais plus trop quand, peut-être en avril, où je vous avais parlé du fait que pour la première fois, on m'avait prescrit des anxiolytiques, donc du Xanax, et pour des problèmes d'anxiété, qui faisaient des formes de crises d'anxiété qui commençaient à devenir handicapantes. Et donc on avait, pendant ce live, même googlé différents antidépresseurs anxiolytiques et tout, et on avait compris ensemble que les antidépresseurs, c'est pas pareil que les anxiolytiques. Les anxiolytiques, c'est un usage ponctuel pour, voilà, un moment où soit je sais que je vais être anxieuse. Par exemple, j'aurais pu en prendre un avant ce live, mais je ne l'ai pas fait. Pour l'instant, ça va. Soit je sens que ça monte, je prends un anxio, c'est un Xanax, quoi, et ça aide à juguler l'anxiété et à pas partir en full crise de panique ou crise d'angoisse ou quoi. Donc j'avais ça pendant quelques mois, et en soi, certes, sur l'anxiété, bah, ça aide parce que, je veux dire, chimiquement, ça marche, quoi. Je ne suis pas spécialement She-Hulk et je ne résiste pas plus que quiconque au pouvoir magique de la chimie, donc ça marche, mais ce n'est pas fait pour aller mieux au long terme. Et je n'allais pas mieux, puisque je continuais à avoir pas mal d'anxiété toujours, plein de questions existentielles de type la trentaine sur que faire de ma vie, quel chemin prendre, est-ce que je suis vraiment moi ou est-ce que je fais des trucs qui sont pas vraiment moi, plus la conjoncture actuelle, n'est-ce pas, nous le sachons, qui est quand même pas ouf, plus voilà, plein de prises de tête de bonnes petites crises de la trentaine, je pense, qui ont fait que bah, ça a commencé à être de plus en plus pesant. Et donc, après avoir reparlé avec ma généraliste, avec ma psy tout simplement, on a décidé de tenter l'aventure antidépresseur. C'est donc le cas depuis septembre et on est parti sur 6 mois. Donc ça finit peut-être en février, ça dépendra de comment je me sens, on en parlera avec ma docteure. Et sinon, on peut faire 9 mois ou 1 an, mais en tout cas, ma généraliste m'a dit « Moi, j'évite de prescrire plus d'un an sur la même molécule parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait une forme, que ça devienne une béquille, où en gros, le patient ou la patiente se dirait, bah, je peux plus être heureux ou heureuse sans les antidépresseurs. Elle veut pas que le sevrage soit trop compliqué. Et, bah, l'idée, elle m'a dit, voilà, vous êtes aussi en thérapie. C'est important que vous restiez en thérapie et que vous continuiez ce travail-là, parce qu'en vrai, les antidépresseurs vont pas vous aider à régler vos problèmes, à y voir plus clair. Ils vont vous aider à avoir l'énergie nécessaire pour avancer sur vos problèmes. Donc, moi, j'étais là, cool, ça me rassure, je suis plutôt contente d'avoir une généraliste qui est très formée à la santé mentale, etc., et qui, du coup, prend ça au sérieux. Enfin, je lui ai dit honnêtement, c'est l'inverse m'aurait inquiété si vous aviez été là en mode « je vous prescris ça comme des bonbons ». Donc, très bien, et on se fait des points réguliers depuis à peu près tous les mois pour déjà renouveler l'ordonnance, mais voir surtout, est-ce que la molécule... Donc, moi, la molécule que j'ai s'appelle du Zoloft. Enfin, c'est de la sertraline. Mon médicament, il s'appelle sertraline. C'est le générique du Zoloft, qui est peut-être un nom que vous connaissez plus. Moi, je connais ça pour... Est-ce que c'est mieux avec un peu plus de light, comme ça? Je pense que oui. Pour moi, le Zoloft et le Xanax, c'est des trucs que je connais dans les romans américains sur des Desperate Housewives dans les années 50. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément des choses sur lesquelles moi, j'ai eu une connaissance intime, en tout cas en grandissant. Mais ça fait plusieurs années que déjà... le tabou de la santé mentale se lève et continue à se lever, ce qui est cool. Donc je me renseigne et j'apprends plein de choses et il y a plein de discours hyper accessibles. Et puis que la vie faisant son œuvre et le Covid aussi, je connais de plus en plus de gens qui ont des périodes avec antidépresseurs et ou avec anxiolytiques. Donc voilà, j'étais un peu plus familière du sujet. Mais j'ai découvert dans la même année le Xanax et le Zoloft comme une bonne mère, femme au foyer désespérée, que je ne suis pas pourtant, car je travaille certes de chez moi, mais je travaille pas mal. Et God bless, je dis ça parce que j'ai passé 4 heures hier avec mon neveu de 4 ans et c'était très bien, mais ça m'a drainé. Je suis toujours child free, je n'ai toujours pas d'enfant, mon DIU fonctionne très bien. On en a déjà parlé de tous ces sujets sur Twitch. Donc, j'ai expliqué à ma généraliste bah, finalement mes symptômes, qui étaient des montées d'anxiété, mais aussi... une forme de découragement, beaucoup de sommeil, beaucoup vraiment. Je suis pas. Alors je sais qu'il y a des gens pour qui la dépression ça crée des insomnies. Pour moi c'était vraiment l'inverse. Alors je passais pas ma journée au lit, mais il y a vraiment des jours où je me levais à 11h, je buvais 2 cafés, j'allais faire une sieste à 13h, je me relevais à 17h. Donc bon, la journée est pas. Et après je me recouche à minuit. Donc bon, la journée passe vite, hein, finalement, on n'a pas le temps de branler grand-chose. C'était compliqué de travailler aussi, de créer du contenu, et notamment du contenu facecam, du contenu audio, etc. Que ça soit en live ou pas en live. Pendant un petit moment, j'ai pu continuer pas en live. Et bah, j'ai toujours le Fab et Mimi Show qui ne s'est pas interrompu, donc ça, c'est cool. Mais voilà, c'est devenu graduellement de plus en plus dur de trouver la motivation et l'énergie de faire mon travail. J'ai dû refuser des missions ou annuler des missions, donc j'étais là... On dirait pas que ça va... Voilà, sur une échelle de 1 à mieux, je dirais pas que ça va mieux. Donc le Xanax, ça aide pour les crises d'anxiété, mais c'est chiant. Là, ça commence à être chiant. Et surtout, j'étais fatiguée. J'en avais marre, j'étais fatiguée d'aller pas bien. Alors que En plus, c'est un peu ce truc, mais je suis la première à dire, mais il faut pas se comparer. Tout le monde a des vrais problèmes, machin. Mais je suis là, en fait, sur le papier, ma vie, ça va, quoi. Genre, j'ai la chance d'être indépendante et de vivre, de faire un métier qui est quand même très cool. J'ai un toit sur ma tête, j'ai un appart chouette avec un mec encore plus chouette, j'ai le type de couple que je veux, j'ai une famille qui touche du bois, en tout cas mes proches sont en bonne santé, j'ai réglé mes problèmes de santé puisque on m'a fait une ablation de la vésicule biliaire, donc j'ai enfin compris pourquoi j'avais des crises gastriques et c'est fini, et ma foi, vive la médecine et vive la sécu, ça ne m'a rien coûté en plus, donc c'est super. Donc voilà, globalement, je n'ai pas, entre guillemets, de quoi me plaindre, et j'ai tous les outils à ma disposition pour changer des trucs qui m'iraient pas, comprendre ce qui me va pas, faire mes propres choix et tout. Et pourtant, eh ben ça va pas. Donc c'est chiant, mais c'est la vie. Alors, je vous lis un petit peu. Faire des trucs qui sont pas vraiment moi, nous dit Birdseye, je suis en plein dedans, je me pose des questions et je le vis pas bien. Bah, je pense que se poser des questions, c'est sain et c'est une chance, c'est un luxe finalement, même si c'est pas forcément un moment ultra fun à passer parce que les réponses sont pas très dures, sont pas très faciles à trouver et que parfois on les trouve et on est là, ah non, j'ai pas envie que ça soit ça. Je pense que l'important c'est de pas rester tout seul, quoi. De pas se les poser que à soi et puis d'aller, certes, écouter des live Twitch de gens qui parlent trop, mais aussi de se tourner vers ses proches et pourquoi pas son docteur et pourquoi pas un ou une thérapeute. D'ailleurs, Jimmy Le Mouton dit « Ton médecin a l'air top, tu as de la chance. » En effet, ma généraliste, ma médecin traitant est vraiment top. Alors, je ne suis pas sponsorisée, mais si jamais vous êtes en région parisienne, les cabinets IPSO, IPSO, sont vraiment incroyablement cool. Il y en a plusieurs à Paris. Il y en a un dans le 19e, un vers Arts et Métiers, et je crois un dans le 17e. Et ils ont des soignants et des soignantes qui sont très très formés à faire passer le patient ou la patiente en premier, à bien tout expliquer, qui sont très formés à l'accueil des populations LGBTQ+, des femmes, des minorités en général. Il y a des soins gynéco, il y a des sages-femmes, il y a une bonne connaissance des problématiques de santé mentale et tout. Et on peut prendre rendez-vous en ligne, on peut faire des rendez-vous en visio, et on peut généralement avoir un rendez-vous assez vite. À la base, moi, c'est juste pour ça que j'y allais, parce que j'étais là-bas. Comme tout le monde, j'ai besoin d'un arrêt maladie et il n'y a pas de généraliste qui prend des nouveaux patients. Et en fait, c'est devenu mon go-to et ma médecin traitant, tellement c'est cool. Donc voilà, si vous êtes en région parisienne, IPSO, le sang de la veine. Donc, les antidep. Du coup, j'ai commencé en septembre avec la dose minimale, à savoir 0,50. Et un mois et demi après avoir discuté avec ma généraliste pour voir où j'en étais, elle m'a dit qu'elle trouvait que j'avais encore un peu trop de symptômes de type fatigue, manque d'énergie, manque de motivation. Et qu'elle aimerait bien, si je suis OK avec ça, essayer d'augmenter un tout petit peu la dose, de passer à 0,75. Je lui ai dit, bah oui, OK, on essaye, hein, de toute façon. Si ça me va pas, s'il y a trop de... Parce que donc, la sertraline, elle m'a expliqué que c'est un antidépresseur qui a aussi un effet anxiolytique. Il a aussi un effet calmant. Donc j'ai plus d'ordonnance de Xanax. Parce que normalement, le fait de prendre cet antidépresseur tous les jours a aussi un effet anxiolytique un peu continu, quoi, long terme, diffus. Voilà, c'est ça le mot. Du coup, ça va aussi avec... Par exemple, quand je le prends, souvent, j'ai un petit coup de barre après, quoi. Je suis un peu somnolente, un peu comme si j'avais bu un bon chocolat chaud, là, une bonne tisane. Donc, bah, je vais pas le prendre juste avant de devoir faire. Je l'ai pas pris juste avant de faire ce live parce que déjà, je suis là. I love la sieste. Si je suis en plus endormie face caméra, c'est pas fou. Donc voilà, il fallait voir si je supportais bien la molécule, l'effet qu'elle a sur moi et le nouveau dosage. Et écoutez, c'est le cas. Donc, on n'y a pas retouché depuis. Je suis à 0,75 depuis. Et on a fait des points réguliers et normalement, on se revoit en février à l'échéance des 6 mois pour voir si on continue, si on s'arrête là et puis faire un peu le point sur comment ça va. Mais ça aide pas mal, donc ça c'est cool et je pense que c'est une partie de la raison de pourquoi je suis capable de reprendre les lives et d'être contente de repasser mes soirées avec vous. Ça aide parce que en gros ça a un effet long terme, hein, les antidépresseurs pour le coup c'est à prendre tous les jours et il faut un peu de temps pour que ça s'enclenche et qu'on ait les effets totalement développés et l'idée c'est que voilà, ça me donne assez d'énergie et de pas de joie parce qu'il n'y a pas d'effet euphorisant, mais en tout cas ça m'aide à plus voir le verre à moitié plein, à moins paniquer quand il se vide un peu, à moins être anxieuse, à moins broyer du noir et à moins aller un peu tout de suite dans le... Dès qu'il y a un truc qui va pas, vas-y, j'arrête. Genre, de toute façon, je le fais pas. Le nombre de trucs que j'ai... Enfin, sans parler des lives, hein, mais le nombre de trucs que j'ai annulés, que j'ai décalés et tout, ces derniers temps, est plutôt faramineux, même pour moi qui suis, j'avoue, la spécialiste de annuler des trucs, c'est ma... Il y a le comédien de stand-up, John Mulaney, qui fait une vanne où il dit « En termes de satisfaction immédiate, annuler un rendez-vous, c'est meilleur que de l'héroïne », et je suis assez d'accord avec ça. Alors on a su après, parce qu'il a fait tout un spectacle dessus, qu'il était lui-même extrêmement, malheureusement, en situation d'addiction à diverses substances, donc j'étais là « Ah !» Probablement qu'il sait vraiment ce que ça fait. Mais en tant qu'introvertie, je suis plutôt la spécialiste de soit annuler un truc, soit... Tu sais, le mieux, c'est quand t'es là, j'ai un peu envie d'annuler et tout, machin, je vais attendre de voir si je me motive, mais j'ai un peu envie d'annuler. Et là, la personne annule avant toi. Du coup, t'es en mode grand prince, genre, écoute, y a pas de souci, je comprends, repose-toi, prends soin de toi, on se recale ça et tout. Du coup, c'est même pas toi qui prends le crédit, la balle, alors que c'est tout ce que tu voulais. Ça doit être ça, manifesting, vous voyez, c'est les planètes et tout, comme vous dites là. Ok. Des bitchers dit « J'ai deux questions. Sais-tu ce qui a provoqué cette dépression? Comment ton compagnon vit-il cela et t'accompagne-t-il ?» Alors, il n'y a pas vraiment de quelque chose qui a provoqué cette dépression. Il n'y a pas vraiment eu... En fait, si je remonte le fil, et c'est ce que je fais dans le cadre de ma thérapie aussi, bah on essaye de trouver... Voilà, il y a peut-être eu des déclencheurs, des triggers ou des choses qui ont fait office de goutte d'eau où ça a trop appuyé sur quelque chose qui est sensible pour moi et du coup... Bah, ça a fini par céder, le barrage a cédé finalement. Mais je pense qu'il y a aussi, c'est une étape assez compréhensible et normale pour moi dans une vie, pas forcément d'être en dépression, mais d'avoir une période où on est paumé et où on remet plein de choses en question et où du coup bah, ça peut faire peur et la peur ça paralyse. Et je pense que selon où on en est en termes d'énergie, de santé mentale et en termes de contexte finalement et de piliers et de repères, bah, on est plus ou moins... prêt ou prête à encaisser ces périodes de doute. Et là, par exemple, bah, comme plein de gens de mon âge, je suis concernée par la crise climatique, la guerre environ partout, la droite au pouvoir, l'inflation, enfin tout ça, c'est déjà de base un terreau qui est sensible, quoi. Le monde macro est pas hyper dingue, même si j'essaye toujours de genre me focaliser aussi sur le positif et tout, bah c'est dur, quoi, voilà. C'est mieux quand il y a plus de positifs. Voilà, n'hésitez pas à faire plus de positifs. Il y a ça, il y a le fait que j'ai pas mal changé de repère ces derniers 18 mois, on va dire, puisque j'ai à la fois quitté mon travail, qui est changé d'appartement et emménagé avec mon mec, donc pour la première fois. Donc ça fait beaucoup de... Pas forcément de changements négatifs, et honnêtement, il n'y a aucune de ces trois choses que je regrette. Mais en tout cas, ça a fait des changements qui ébranlent les repères et qui ébranlent tous les outils qu'on a pour s'appuyer dessus quand ça va pas. Par exemple, peut-être que si j'avais été encore salarié, bah, la routine, le fait d'avoir des responsabilités, le fait d'avoir la sécurité financière, peut-être que ça m'aurait fait traverser ça un peu plus facilement. Mais d'un autre côté, peut-être que ça aurait été mille fois plus dur parce que j'aurais culpabilisé d'être en arrêt maladie, j'aurais pas osé me mettre en arrêt parce que bah non, mais j'ai des responsabilités, machin, j'aurais culpabilisé de toucher quand même de l'argent alors que je fais rien, enfin voilà. C'est ça. Et il y a aucun moment où je me suis dit, tu sais ce qui serait mieux pour cette dépression? Être salarié et devoir me lever le matin pour prendre les transports en commun. J'étais là, waouh, tellement blesse d'être en dépression quand je suis freelance, c'est quand même vachement plus simple. Mais j'aurais été, je pense, voir ma docteur et lui dire, on va faire un petit arrêt longue durée, quoi. Donc je pense qu'il y a un mix de... Et puis, bah, n'oublions pas quand même qu'on s'est tapé une forme de choc mondial de type Covid il y a quelques années, que c'est toujours pas fini, et que bah, ces confinements, etc., ça peut quand même avoir des effets... En termes de ça ébranle, parce qu'on n'a jamais vécu quelque chose comme ça de notre mémoire, en tout cas de notre génération, qui sont probablement encore à découvrir. Donc je pense que c'est un gloubi-boulga de tout ça. On se sent moins seul en t'écoutant. Mais on est plein, c'est ça aussi, c'est que. Et merci à toutes les personnes qui ont pavé la voie de dédramatiser la santé mentale, parce que pour le coup, moi, dans mon éducation, dans ma famille, c'était pas des sujets tabous, mais c'était pas un sujet, en fait. Personne n'allait voir de psy pendant. Enfin. Jusqu'à, je pense que j'étais déjà partie de chez mes parents après mon bac, quand la première personne de ma famille que je connaissais est allée voir un psy. Enfin, en tout cas, à ma connaissance. Donc voilà, c'était pas un truc, quand j'étais gamine et que j'étais ultra timide, on m'a jamais dit, bah, peut-être, faut aller voir un psy. Quand j'étais ado et que j'étais chelou, on m'a jamais dit, faire le psy, c'était pas une option, quoi. C'était vraiment pour les gens qui vont très très mal, genre, les gamines qui étaient en situation d'anorexie ou qui se scarifiaient tous les jours ou whatever. Donc, en tout cas, c'est l'idée que j'en avais, bien sûr. Donc, c'est vraiment grâce à la levée du tabou et aux prises de parole diverses et variées sur la santé mentale que je peux être aussi sereine, entre guillemets, avec le fait d'être en dépression. C'est un petit peu con à dire, mais en fait, je vois ça comme, ouais, je suis en dépression, comme je prends un antidep tous les jours, comme fut un temps, j'avais des brûlures d'estomac chroniques et je prenais un pansement gastrique tous les jours, quoi. C'est ok, bon, bah, il y a à la fois un truc chimique dans mon cerveau qui galère et des trucs dans ma vie que je peux changer pour que ça galère moins. Et bah, avançons, c'est une aventure comme une autre, quoi. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais en fait, ça me ravit pas d'être en dépression, mais ça me. J'ai la chance d'être assez sensibilisée pour pas le vivre comme un échec personnel, ni comme une fatalité. C'est juste. Ok, c'est pas fun et j'ai hâte que ça soit fini et on fait tout pour. Mais je pense que c'est aussi une période où j'apprends beaucoup. J'ai longtemps été plutôt fermée à mes émotions et j'avais du mal à y accéder, etc. Et ça passait par, bah, du coup, des coping mechanisms, des façons de gérer les choses qui sont mi-instinctives, mi-pas très bonnes, genre bah, typiquement picoler trop. S'abîmer dans un jeu vidéo pendant une semaine plutôt que de réfléchir à ses problèmes, mettre la tête dans le sable, tout ça, c'est pas des comportements qui sont forcément sains et qui font avancer le schmilblick. Et je pense que je suis pas en dépression parce que je suis en thérapie, hein, c'est pas ce que je dis, mais le fait d'être en thérapie depuis des années et d'accéder du coup à une plus grande compréhension de mes émotions et être plus à l'aise avec, bah oui, ça fait remonter des trucs et ça me fait me rendre compte de trucs sur lesquels je suis pas 100% encore sereine ou alignée, mais c'est pas des trucs qui n'existaient pas avant, c'est juste qu'avant ils étaient enterrés dans le sable et que j'avais quand même bah, ces angoisses, ces doutes, de, voilà, fin, des grandes questions de type qui suis-je, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui me représente vraiment, quelle est la personne que j'ai envie d'être demain, est-ce que j'arrive à me projeter dans l'avenir et tout. Fin, c'est quand même des questions assez humaines quoi, et qu'il est bon, je pense, de se poser. Donc voilà, j'ai quand même cette chance et puis aussi parce que j'ai un entourage qui est très très bienveillant par rapport à ça, pas forcément très sensibilisé, mais très bienveillant, eh bien, je suis blessed et je peux vivre ma dépression dans finalement le plus grand des calmes. Hein. Et puis, God bless à la fois la Sécu, qui me rembourse, et ma généraliste très sympa, et mes médicaments. Et God bless le fait que j'ai des revenus, en partie grâce à vous, donc merci, qui me permettent de payer une thérapie, parce que malheureusement, c'est assez peu remboursé maintenant. Mais petit point quand même, si jamais vous êtes pas bien, si jamais vous avez l'impression d'avoir besoin d'aide, vous pouvez en parler à votre généraliste, médecin traitant, etc. Vous pouvez aller en CMP, en centre médico-psychologique, où il y a des rendez-vous gratuits avec des psychiatres et des psychologues. Vous pouvez demander à votre généraliste de vous adresser à un psychiatre, les psychiatres étant des médecins, ils peuvent être remboursés par la Sécu. Et il y a beaucoup de services d'associations aussi qui vous offrent une écoute, que ce soit sur un chat en ligne, en visio ou au téléphone. Donc, ne restez pas solo, il y a des solutions, on peut s'en sortir. Et à la fin, on refait des streams et ça va mieux. Mintara, oh là là, ok, bah on parlait d'entourage bienveillant. Mintara, par exemple, dit « À chaque fois que je parle de ma psy à ma mère, mon père intervient pour me dire « Fais plutôt tes prières, ma fille ». On dirait mis une menace, fais tes prières, c'est Jésus qui va te guérir de ta dépression. Peut-être, mais peut-être que, tu sais, il n'y a pas une fable genre religieuse ou biblique ou quoi, ou un cartoon, où c'est genre un homme qui est coincé par une inondation sur son toit. Et il supplie Dieu de lui envoyer un signe, un miracle, de le sortir de là. Et il voit un tronc passer qui flotte, il se dit non, Dieu, il va me sauver. Il voit une planche, une porte passer en mode Titanic qui flotte. Il se dit non, Dieu, il va me sauver. Il voit une barque passer, mais trop loin, il veut pas se jeter à l'eau. Il dit non, Dieu, il va me sauver. Il finit par mourir. Il arrive au paradis, dans l'au-delà. Il dit à Dieu, bah mec. Et Dieu, il dit, bah mec, je t'ai envoyé 3 trucs, il y a quoi ? Voilà. Aide-toi et le ciel t'aidera, non ? C'est pas. It's a thing qu'on dit, que je dis peu. Pourquoi aller voir un psy quand Baldur's Gate 3 existe ? Alors, c'est vrai que Baldur's Gate 3 coûte le prix d'une séance de psy à Paris pour des heures de fun. Mais je pense qu'on peut apprendre beaucoup sur soi avec Baldur's Gate 3 en observant ses choix et ce qui les motive. Mais je conseille néanmoins la thérapie en plus de Baldur's Gate. Let's go. Justin me demande, du coup, t'as plus jamais eu de brûlure d'estomac ? Alors, sur l'aspect, on parle de moi, sur l'aspect santé physique, machallah, ça va vraiment mieux. Donc mes brûlures d'estomac, j'en ai eu de façon hyper vénère pendant un an et demi, et c'est pour ça que j'ai perdu beaucoup de poids, et que puisque j'ai perdu 15 kilos, et que je suis passée de globalement grosse à oh, je suis dans les canons de beauté. J'avais fait tout un live dessus parce que c'était tout un truc et plein de gens me disaient sur internet waouh, comment t'as fait pour perdre du poids ? Et j'étais là, j'ai gerbé tous les jours pendant un an et demi, waouh ! Donc voilà, plot twist, ce n'était pas un régime miracle. On a fait beaucoup d'examens et de boulot avec ma généraliste pour trouver d'où ça vient. Donc j'ai pris du Gaviscon, donc des pansements gastriques en prévention des brûlures et en gros ça tapisse l'estomac pour que ça brûle moins, mais bon, ça marchait pas trop. J'ai pris un médicament quotidien pour réduire la production d'acidité, machin. J'étais à l'oméprazole. J'ai fait des prises de sang. J'ai fait une échographie. On était à ça de me faire une gastroscopie. Un truc où on te met la caméra dans l'œsophage, là. Apparemment, c'est pas fun. Et ça ne passait pas. Et c'était vraiment la galère de fou. Et c'était de pire en pire. Et vraiment, ça me gâchait mes nuits. Fibroscopie, oui, merci, Justin. Ça me gâchait mes nuits. Ça me gâchait mes journées. Mes proches qui étaient là à l'époque peuvent en témoigner. Et après, j'ai quitté mon travail. J'ai arrêté les brûlures d'estomac quasiment immédiatement. C'était vraiment ridicule. Genre, alors que bon, encore une fois, je suis en thérapie, je suis éveillée à la santé mentale, aux questions d'anxiété, etc. J'ai plein de gens qui m'aiment. J'avais des galères, certes, au travail, comme tout le monde, mais j'en parlais autour de moi. J'avais du soutien et tout. Et je pense qu'il me fallait être, il me fallait être indépendante. Il me fallait quitter cet environnement pro. Et c'était quasi instantané. Donc malheureusement, je n'ai pas de remède miracle aux brûlures d'estomac parce que je pense que quitter son travail n'est pas la solution miracle pour ce problème pour tout le monde. Mais du coup, c'était sûrement du stress, quoi, hein, vraiment un truc psychosomatique. J'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui souffrent de brûlures d'estomac, comme le rappelle Mintara à l'image de Marie Kigaï, que nous aimons tous et toutes et qui malheureusement a régulièrement mal au bide. Et plusieurs mois après, je me suis mise à faire des crises random, mais qui n'étaient pas pour le coup... c'était pas du tout la même sensation que des brûlures d'estomac. Et c'était très brutal et impressionnant, mais aussi très ponctuel. En gros, pendant 24 heures, j'étais vraiment... Mais dead de chez dead. Je ne pouvais... Désolée les hémétophobes, je ne vais pas donner de détails, mais en gros, je ne faisais que vomir, genre, tout le temps. Je ne pouvais rien avaler, rien garder pendant vraiment une journée. Et c'était toujours le même enchaînement de... Je vomis, mais pas grand-chose, parce qu'en plus, au bout d'un moment, j'ai rien dans le bide. Ensuite, j'ai très chaud. Ensuite, j'ai très froid et je grelotte. Ensuite, je semi-somnole, semi-comate. Et entre une demi-heure et 40 minutes après, rebelote. Donc c'était, comme vous pouvez l'imaginer, 24 heures très fun et assez flippante, ma foi. Mais après, ça passait d'un coup. Et vraiment, il y avait un bouton on-off, quoi. J'étais en mode... What? La première fois, je me suis dit, intoxication alimentaire. En plus, je rentrais de voyage, j'avais mangé un sandwich un peu bof à l'aéroport et tout. Je me suis dit, ça doit être ça. Deuxième fois, quelques semaines plus tard, j'étais là. Là, c'est un peu plus chelou parce que c'est moi qui ai cuisiné et j'ai mangé pareil que deux personnes, puisqu'on avait été trois à table et les autres ont rien. Bon, je me suis dit, ok, peut-être j'ai l'estomac fragilisé par mes brûlures d'estomac, justement. Ça arrive, j'ai pas non plus le mode de vie le plus sain du monde, ok. Mais ça s'est rapproché. Surtout, ça continue à arriver de façon assez aléatoire. Et pour le coup, c'est vraiment le truc, ça me met mais par terre, quoi. C'est comme une crise d'appendicite, tu peux rien faire. Donc j'étais là, en fait, jusqu'ici, ça arrive quand je suis chez moi et que j'ai rien de trop essentiel à faire. Mais si ça arrive quand je suis dehors, par exemple, je suis vraiment... capable de rien. Et si ça arrive quand je suis en live ou en train de bosser, enfin c'est pas possible, quoi. Donc j'en ai reparlé à ma docteure, j'étais là, pourquoi ça fait ça? Et elle m'a dit, ok, peut-être qu'il y a un truc avec votre vésicule biliaire, mais c'est pas sûr, on a fait une échographie, on a regardé, c'est pas clair de fou sur l'échographie. Donc elle m'a envoyé voir un spécialiste gastro-entérologue à l'hôpital, au CHU, qui a regardé pour avoir une deuxième opinion. Il a regardé mes échographies. Il m'a dit, en effet, c'est un peu flou. Donc, c'est pas sûr que vous avez un problème à la vésicule biliaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est soit vous attendez votre prochaine crise, soit on part du... Enfin, en gros, il faudrait faire une deuxième échographie. À vous de voir si vous voulez la faire maintenant et me la ramener. On décide si on vous opère ou pas, parce qu'on va pas vous opérer si tout va bien. Soit vous attendez de voir si une nouvelle crise arrive, et si oui, vous refaites l'échographie. Donc j'étais là en mode, ok, ça c'était l'été dernier. Enfin, cet été-là, 2023. J'étais là, ok, je vais semi-attendre, semi-quand même m'en occuper non pas trop longtemps, parce que j'en ai marre d'avoir des problèmes de bide, quoi. Et sur ce, malheureusement, en octobre de cette année, ma famille a traversé un deuil puisque j'ai perdu une cousine d'un cancer du pancréas fulgurant et j'avais déjà perdu une tante du même côté de la famille d'un cancer du pancréas fulgurant. Donc quand on additionne tout ça, plus Mimi a quand même des symptômes gastriques très chelous, je me suis tapé un vrai coup de flip de... Donc là, je vais avoir un cancer du pancréas et mourir. Parce que le cancer du pancréas, malheureusement, on a un très très faible taux de survie. Donc j'étais vraiment en stress. J'ai expliqué ça à ma docteure. Elle m'a dit, OK, bon, on va faire un scanner. Alors, comme ça, on vérifie déjà, est-ce qu'il y a un truc avec votre pancréas ou pas? Et un scanner, c'est, je sais pas, on voit d'autres trucs qu'à l'échographie. Je fais, OK, je vais faire un scanner. Je le programme pour le lendemain tellement je suis stressée. Moi, je suis là, je vais mourir, c'est sûr, je vais mourir, c'est sûr. C'est sûr, je suis en train de mourir. Zinzin, la meuf. J'en parle dans le Fab et Mimi Show plus en détail, si vous voulez l'histoire de comment Mimi a découvert la peur de mourir à 32 ans, puisque je n'avais jamais eu vraiment peur de mourir avant. Et donc je trouve un truc libre le lendemain, je vais faire un scanner premier de ma vie. Le scanner, c'est le truc où t'es allongé, ils te font passer dans le gros tube là. C'est pas un IRM, donc c'est pas le tube fermé, mais c'est un gros cercle qui passe autour de la zone à... C'est des radiations quoi. De la zone à examiner, et il te branche une perf qui fait passer un liquide dans tout ton système sanguin pour genre qu'on voit mieux, voilà, pour mettre en relief les veines, etc. Et j'explique à la personne qui fait l'examen et à la spécialiste, la chirurgienne qui va regarder, non, la radiologue, pardon, qui va regarder les résultats, que j'ai cette historique de cancer du pancréas dans ma famille et que ça m'inquiète beaucoup. Et les deux me disent, et le premier truc qu'elles me disent, elles regardent, elles disent, votre pancréas va très bien, c'est pas votre pancréas. Donc là, je me dis, ah, ok, ça va, je sais toujours pas ce que c'est, mais c'est pas mon pancréas. Et franchement, à ce moment-là, c'était pas le seul truc qui m'importait, mais pas loin, parce que j'étais là, le pancréas, c'est très compliqué, visiblement. Ouais, Dickinson dit, c'est ce qui est flippant vers 30 ans, t'es censé être jeune pour avoir des trucs graves, et tu commences à entrer dans l'âge où tu peux commencer à développer des trucs graves. Oui, et à, statistiquement, bah, connaître de plus en plus de personnes qui ont des trucs graves. Les deux personnes de ma famille qui sont décédées du cancer du pancréas étaient plus âgées que moi, elles avaient la cinquantaine à peu près, mais c'est pas une raison, quoi. Ça peut arriver, il y a toujours des cas où ça arrive à des gens plus jeunes. Donc je fais le scanner. Ce n'est pas le cancer du pancréas. Je me dis, God bless. Et elles me disent, voilà, bah, on est toujours sur, c'est peut-être votre vésicule biliaire, mais c'est toujours pas incroyablement net. Donc, de toute façon, votre généraliste, votre médecin traitant qui vous suit, va aussi regarder et tout. Reprenez rendez-vous avec elle. Je me dis, OK, ça tombe bien. Nous sommes un vendredi. Et le lundi, je m'apprête à décoller pour Budapest pour une semaine de vacances en amoureux bien méritées, puisque mon copain et moi, on n'est pas partis ensemble cet été. On n'a pas pris de vacances ensemble depuis un moment. Voilà, je venais de sortir du deuil qui a frappé ma famille. Enfin, je venais d'encaisser ça. On avait bien besoin de repos. Lundi, notre avion est à 17h. OK, vous l'avez ? Pour la Hongrie. Lundi 5 du TAM, je me réveille, je fais une crise. Je suis là. Évidemment, parce que ça arrive maintenant. Je me dis, tu sais quoi, peut-être ça va passer plus vite que d'habitude. Il est 5h du matin, l'avion, il est dans 12h. Peut-être que we can make it, tu vois. Peut-être que cette fois-ci, ça va passer. Peut-être que si j'y crois encore, ça va aller. 3 heures plus tard, je réveille mon mec et je lui dis, OK, appelle SOS médecin, c'est pire que d'habitude. Là, j'ai vraiment trop mal, je suis trop chaos. C'est déjà pas fun d'habitude, mais là, ça m'inquiète. Et aussi, je me dis, peut-être qu'il y a... Bah oui, vous faites une intoxication alimentaire, voilà, on vous purge, et dans 2 heures, vous êtes ready à partir. Moi, je croyais que j'allais à Charles de Gaulle à la fin de la journée, hein. Pas du tout. Spoiler, j'ai jamais été en Hongrie, hein, de ma vie, j'ai pas encore vu Budapest, du coup. SOS médecin arrive, la dame m'ausculte, elle me voit comme ça, en sueur, à peine capable de parler, elle prend ma température, je suis à 36,9, elle est là, ah non, ok, d'accord, c'est toute la sueur là, c'est juste la douleur, vous n'avez pas de fièvre. J'étais là, je ne sais pas, je suis une boule de somme là actuellement. Donc elle m'injecte un petit antidouleur dans la fesse et elle me dit, ouais, allez à l'hôpital, hein, parce que, a priori, calcul de la vésicule biliaire. Oh non, c'était donc ça depuis le début. En effet, j'avais des calculs au niveau de la vésicule biliaire, qui est un truc qui arrive, je connais plusieurs personnes à qui c'est arrivé. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une opération qui est courante, qui est avec très peu de risques, qui est remboursée, qui n'a pas de conséquences long terme. C'est un peu une appendicite en vrai. C'est-à-dire qu'on peut très bien vivre sans vésicule biliaire. La mauvaise nouvelle, c'est que les calculs, quand ça arrive, ça fait très mal. Donc c'est ça qui m'est arrivé depuis plusieurs fois. Il y a eu un calcul qui a fini par se déloger. Donc c'est pour ça que j'avais mal, et au bout d'un moment, c'est bon. Mais là, ce coup-ci, il était devenu trop gros, il pouvait plus se déloger. Donc méga crise, douleur, naninana. Urgence, perf, Bim, bam, boum, nouvelle échographie, bim, bam, boum, journée aux urgences, la fête, un grand merci et du love à Nodius, mon amoureux, qui a tout géré comme un chef. Moi, j'étais là, Air France, il faut qu'on annule. Il était là, chut, ta gueule, non, vraiment, je m'en occupe. Et j'ai été transférée le soir même, donc le lundi, dans une clinique qui avait une place de libre pour être opérée le lendemain, voilà, pour une petite ablation de la vésicule biliaire. J'ai été donc hospitalisée le lundi matin, opérée le mardi, j'étais chez moi mardi soir. Merci encore à mon amoureux qui a tout géré, à la sécu, à l'ensemble du personnel soignant qui en plus a été super avec moi, y compris aux urgences, alors qu'aux urgences il y a pas mal de monde en ce moment. Et trop peu de moyens humains et financiers. Donc voilà, petite opération, mais ça va très bien, franchement. Et du coup, il n'y a pas de conséquences long terme, j'ai pas d'interdiction ou de restriction alimentaire, quoi que ce soit. Je suis juste dans le plus grand des calmes, débarrassée enfin de ces crises, mais du coup, c'était pas lié à mes brûlures d'estomac, ça n'avait rien à voir. Les brûlures d'estomac peuvent toujours revenir, notamment avec le stress, mais pour l'instant, touche du bois, on va juste faire la dépression, hein, on va pas tout cumuler en même temps, ok? On va faire ça. Voilà, donc les problèmes physiques, c'est réglé, la santé mentale, working on it, sertraline family, et on se remet sur pied avec les médicaments, mais aussi surtout avec l'amour de mes proches et la thérapie. Nodius dit, en vrai, du point de vue extérieur, les calculs, c'est super impressionnant. J'avais déjà vu quelqu'un avoir un calcul rénal et tu sais pas trop où te mettre. La douleur a l'air tight. Ouais, bah ça fait mal et surtout, apparemment, les calculs rénaux, c'est vrai, c'est encore pire. Ça fait très mal et surtout, ça te shut down tout le corps, quoi. C'est un peu comme, je pense que l'équivalent que j'ai avant d'avoir vécu ça, c'est une diarrhée hyper vénère ou une crise de vomissement ou peut-être un coup de pied extrêmement bien placé dans les testicules qui vraiment où tu sens que tout ton corps il est en mode nope, on peut rien faire. Le cerveau il marche pas, genre je sais quand je faisais des crises, taper un texto pour dire je suis pas bien, je viendrai pas, c'était littéralement à 10h, je me disais OK, ça va pas aller mieux, il faut que je prévienne Marie que j'irai pas déjeuner. À 11h, j'étais encore en train d'essayer de taper lettre par lettre, quoi. C'était vraiment... Rien ne marche, quoi. Donc, merci encore, Nodius. Et tu as été un petit chef. Voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir un amoureux comme toi. Bien sûr, Maluquiel, j'ai eu droit à de la sweet drogue pour la douleur. De la drogue en intraveineuse, hein, clairement. J'avais une perf. Parce que c'est très douloureux. C'est pour ça que la dame de SOS Médecin m'a fait une piqûre. Et d'antidouleur, avant tout, parce que c'est très douloureux et ça épuise la douleur. Et les dames, alors je sais pas si c'est vrai, mais toutes les dames de l'hôpital et de la clinique, donc toutes les aides-soignantes et les infirmières qui se sont occupées de moi et ma chirurgienne m'ont dit que j'étais très courageuse par rapport à la douleur et que de toute façon, les femmes sont toujours plus courageuses par rapport à la douleur que les hommes qui chouinent. Et je crois que c'est statistiquement prouvé que les femmes ont une plus grande résistance à la douleur. Maybe parce que, enfin les femmes, les personnes assignées au genre féminin à la naissance, en tout cas, peut-être parce que notre utérus fait du rodéo tous les mois. I don't know. Peut-être parce qu'on accouche. I don't know. Mais oui, ça. Qu'est-ce qui peut causer les calculs Alors pour les calculs rénaux, c'est principalement manque d'hydratation, je crois, et mode de vie, alimentation. Je pense qu'on peut y être on peut y être sujet de façon un peu héréditaire, hein, quand on a de la chance. Il y a des gens qui en font plus facilement que d'autres. Je connais quelqu'un qui avait eu des calculs suite à un bypass, donc une opération de la chirurgie de l'obésité. Et pour la vésicule biliaire, on sait pas trop. C'est en gros ma chirurgienne qui globalement elle passe sa journée à opérer avant moi, elle opère une vésicule biliaire, après moi elle opère une vésicule biliaire. Elle m'a dit en gros, avant 30 ans quand on a très mal d'un coup au ventre, c'est l'appendicite, après 30 ans quand on a très mal d'un coup au ventre, généralement c'est la vésicule biliaire. Voilà, ça s'inflamme vite donc buvez de l'eau, ça c'est toujours un bon conseil, mais c'est spécifiquement pour les calculs rénaux et les calculs rénaux. Croyez bien que maintenant que j'ai fait la version light, qui est la vésicule biliaire, j'avais pas envie d'y passer. Donc, speaking of Nodius, la personne me demandait dans le chat, comment est-ce que ton compagnon a vécu la chose et t'a accompagné dans ta dépression? Et quelqu'un d'autre disait quelque chose comme, je suis aussi avec une personne qui est en dépression, je ne sais pas comment l'aider. Alors, je vais pas parler à la place de Nodius, ni vous raconter notre vie intime et privée, parce que ça vous regarde pas et que c'est la nôtre, donc aussi la sienne. Mais je peux vous dire comment moi j'ai bien aimé être aidée et accompagnée, par exemple, pendant ma dépression. Et après, c'est adaptable à chaque personne parce que chaque personne traverse à sa façon les moments durs. Je pense que chaque dépression et chaque symptôme sont différents. Et chaque personne a sa capacité à communiquer ou pas ce dont elle a besoin. Donc je peux pas vous donner une méthode miracle pour être un support pour vos proches en dépression. Mais je peux juste vous raconter ma vie comme d'habitude et après vous en ferez ce que vous voulez. Moi, ce qui m'a aidée, c'est déjà de savoir que je pouvais en parler sans problème. La première personne à qui j'ai dit, bah voilà, ma généraliste m'a diagnostiquée en dépression, c'est mon amoureux. En partie parce que c'était important pour moi de lui dire, et en partie parce que j'ai jamais eu le moindre doute à aucune personne à qui je l'ai dit que ça allait être bien reçu, dans le sens où ça allait être pris comme « Ok, je t'aime, comment je peux faire pour t'aider ? Ça va aller, tu vois. » Et rien de « Ah, c'est pour les... Rien à foutre de ta dépression, Thibaut InShape, tout ça, j'avais pas de ça dans mon entourage. » Y compris du côté de mes parents, donc comme je vous ai dit, ma famille c'est pas une famille de psy ni de patients de psy hein, historiquement. Mes parents n'ont que très peu de connaissances des sujets, en tout cas de connaissances vraiment précises des sujets liés à la santé mentale et notamment aux médications, où je pense qu'ils ont une image un peu de oula les antidépresseurs, pas c'est pour les fous, mais oula c'est fort quand même quoi. C'est, et puis y a, je pense un peu cette idée de ça fait un peu zombie quoi, ça t'assomme et tu vas pas mieux, t'es juste shooté. Donc j'ai attendu pour le coup juste de les voir en vrai avant de leur dire que j'avais été diagnostiquée en dépression et que j'avais des antidépresseurs. Mais quand bien même ils y connaissent rien, et bah ils ont été super en fait, ils ont posé des questions, ils ont été à l'écoute, je suis sûre qu'ils ont été se renseigner de leur côté et ils m'ont dit d'accord, je t'aime, comment on peut t'aider, ça va aller. Donc je pense que déjà le premier truc c'est montrer et verbaliser que il y a pas de souci à vous en parler, que vous serez prêt à écouter, à être là pour la personne. Et après c'est une question de trouver un équilibre entre être là pour la personne, peut-être oui un peu plus ou un peu plus ou un peu différemment d'habitude parce que elle traverse un truc, et en même temps moi je sais que quand je l'ai dit à mes proches un peu plus, donc je l'ai dit à mon mec et plusieurs jours après, je l'ai dit à d'autres proches parce que j'avais besoin de digérer le truc et tout de mon côté. Je l'ai fait sur WhatsApp parce que je suis une personne chelou. J'aurais fait un message groupé en mode « Ah, je suis en dépression, voilà, bisous !» Après, j'ai créé un mème parce que je suis débile et que je cache mes émotions derrière de l'humour. Ce que j'ai dit dans le message, c'est « Voilà, c'est comme ça. Je suis pas la première du groupe à être passée par là. J'espère être la dernière, mais je ne le garantis pas. En tout cas, je veux que ça change rien. J'ai pas envie d'avoir des regards de pitié, j'ai pas envie d'être cajolée, je suis pas en sucre, j'ai pas envie qu'on me dise ah ça va et tout, et ce serait même contre-productif parce que un des trucs qui est galère pour moi c'est que je suis très vigilante et très en surempathie envers comment les gens se sentent, comment les gens se traitent, comment les gens me traitent, est-ce qu'il y a du non-verbal, est-ce qu'il y a des trucs chelous, genre je suis in touch with the vibe et du coup je sens quand les gens ils sont genre trop gentil, tu vois, trop gentil, je suis là, non, ça soit normal. Donc je leur ai dit, soyez comme d'hab, et ils étaient là, ok, et ils ont été comme d'hab, mais avec Mimi qui est en dépression, donc ils ont été très compréhensifs, et voilà, donc je dirais, c'est un équilibre à trouver entre bah, accompagner la personne parce qu'elle vit un truc, et lui permettre au maximum de vivre une vie normale et d'être traité normalement. Je dirais que c'est bien d'être indulgent ou indulgente avec les diverses manifestations de la dépression qui peuvent être un petit peu surprenantes ou incompréhensibles. Alors il y a l'aspect, voilà, il y a des gens qui font des insomnies de fou, il y a des gens qui dorment toute la journée, il y a des gens qui dorment pas mais qui restent au lit toute la journée, il y a des gens qui ont du mal avec leur hygiène personnelle, avec l'hygiène de leur chez eux, avec l'alimentation, avec les deadlines, avec voilà, il y a plein de choses de manifestations. Moi j'ai des symptômes qui sont heureusement pas trop lourd et bah typiquement j'ai jamais arrêté de me doucher etc, ça va, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui socialement deviennent compliquées, j'ai une jauge d'énergie sociale qui est déjà pas très haute de base et qui a tendance à se drainer très vite quand ça va pas, donc bah par exemple un de mes amis qui savait que j'étais en dépression et qui est lui-même aussi une personne concernée par la problématique, n'est-ce pas, c'est mon pote de sertraline, j'étais un soir, je passais la soirée chez lui. On avait vraiment genre tranquille. On dit non, matin, film. Il n'y a pas de stress et tout. Et genre, on n'est pas obligé de parler deep, quoi. On peut vraiment genre être chill. Et en même temps, si je veux parler de mes émotions, je sais qu'il est à l'écoute et tout. On avait fait à manger et tout. Genre pour deux, machin. Je crois que c'est risotto et tout. Il va pisser avant qu'on mange. Moi, je joue un peu avec son chat. Il sort des chiottes. Je lui dis, je vais y aller. Vraiment, je me lève et je lui dis, je vais y aller, faut que j'y aille. Je suis trop stressée maintenant pour être. J'ai monté l'anxiété, etc. Je lui dis, je vais y aller, je vais pas pouvoir continuer à socialiser. Désolé, c'est très brutal. Et aussi, tu vas dîner tout seul. Et il m'a, bah, il était Genre, triste parce qu'il est en empathie pour moi. C'est comme si je lui avais dit, bah, j'ai trop mal au bide, je vais rentrer. C'est genre, oh bah non, ma pauvre. Mais il l'a pas pris personnellement, il m'a fait aucun reproche, il a tout à fait compris. Ça l'a pas empêché de me réinviter et de m'envoyer un message pour me dire que le risotto était bon. Donc, voilà. Je pense se rappeler que, bah, oui, les gens vont peut-être être un peu moins au top. C'est normal. Ça fait un peu partie du délire de, bah, ils sont malades, ils ont un problème de santé. Donc, tout comme si vous avez un pote qui s'est pété la cheville, vous lui en voudrez pas de marcher moins vite dans la rue avec vous, bah, c'est un peu pareil. Essayez de comprendre, en discutant avec la personne, comment ça se manifeste, de l'aider à pas culpabiliser aussi. Moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien, bah, quand j'ai eu du mal à bosser, quand j'ai dû annuler des lives, des choses comme ça, que ce soit vous, mes petites relations parasociales préférées, ou mes relations sociales tout court, c'est-à-dire mes proches, personne m'a fait culpabiliser, personne m'a dit, ah, bah, attends, t'abuses, t'annules encore. J'ai eu quelques personnes qui m'ont, et on va en parler, hein, ça c'est venu sur dans les questions anonymes, qui m'ont demandé, bah, financièrement, est-ce que ça va aller et tout, est-ce que je peux me permettre, entre guillemets, d'annuler des choses, mais quand il s'agit d'un live comme ça, voilà, bon, c'est pas, merci beaucoup et encore une fois pour tout votre soutien, mais c'est pas Twitch qui paye mon loyer et c'est à peine Twitch qui paye une semaine de course, donc c'était pas un enjeu financier dingue, mais voilà, il y avait cette question là à la limite de est-ce que tu peux te le permettre, mais il y avait pas ni de jugement ni de un peu de forcing en mode mais non, vas-y, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu es en dépression, arrête. Donc ça, c'est cool. Et au contraire, il y avait plutôt une genre de m'accompagner vers l'indulgence et de dire ok, ouais. Et un peu d'aide de ok, est-ce que t'es sûr? Est-ce que il y a pas une façon où je peux t'aider à faire le truc? Est-ce que tu penses pas pouvoir faire une petite partie comme ça? T'es contente d'avoir fait un truc et pas tout d'un coup? Est-ce qu'il y a pas une version où on peut simplifier le truc, voire le déléguer? Donc voilà, il y avait aussi des pistes de solutions. C'était pas forcément ok, bah t'annules, on annule tout et on reste sous la couette. Mais en tout cas, il y avait zéro culpabilité. Il y a toujours zéro culpabilisation. Je pense que a priori, si vous êtes sur ma chaîne, si vous suivez un peu mes contenus, c'est un peu évident, mais que vous allez pas faire culpabiliser la personne à qui vous êtes. Après, il y a aussi une question de préservez-vous et trouvez, définissez et communiquez sur vos limites. À la fois, c'est de la faute de personne si la personne est en dépression, mais les répercussions de cette dépression vous concernent aussi si vous êtes proche de cette personne. Donc typiquement, si vous avez une amie en dépression qui annule sa venue à un événement, bah, it's ok. Sauf si peut-être c'est l'événement le plus important de votre vie. Et peut-être que là, ça vous touchera et vous vous direz, bah, en fait, là, ça me blesse son absence et tout. Bah, du coup, c'est une discussion qu'il est possible d'avoir. Si vous vivez avec quelqu'un en dépression qui, voilà, n'arrive plus à prendre soin des espaces communs, de normes d'hygiène et tout, c'est des discussions qu'il faut. En fait, il faut jamais sacrifier, aider quelqu'un. En fait, c'est pas vous qui allez guérir la personne. Donc, vous pouvez juste rendre sa vie un peu plus confortable le temps qu'elle guérisse. C'est vraiment, imaginez que la personne a la jambe dans le plâtre, quoi. C'est, vous allez rien faire pour accélérer le fait que l'os se ressoude. Par contre, vous pouvez rendre les choses accessibles, vous pouvez rendre les nuits moins compliquées et vous charger un peu plus souvent de la vaisselle parce que c'est chiant de tenir debout avec une jambe dans le plâtre. Voilà. Voir une pote en crise d'anxiété ou en big phase de dep, c'est dur. T'es là, tu sers à rien et t'aimerais tellement qu'il ou elle aille mieux. C'est sûr que c'est dur et pour l'avoir vécu dans le sens inverse, c'est-à-dire avoir des proches qui vont mal plein de fois et étant une personne assez empathique, n'est-ce pas? Je suis bien placée pour le savoir. Après, je suis pas d'accord qu'on sert à rien. Je pense que ça dépend vraiment des gens, hein. Il y a des gens qui vont apprécier juste un câlin ou une présence. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'être totalement seuls. Il y a des gens qui vont vouloir qu'on leur parle et qu'on les distraye pour qu'ils pensent à autre chose. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Ça peut être des petits safe words pour signifier là ça va pas, il faut que j'y aille et tout. Donc pour moi, ça, si la personne fait une crise et que vous êtes là, bah si vous avez vraiment l'impression de servir à rien, que votre présence est contre-productive mais que la personne n'arrive pas à vous le dire, évidemment, ou que ça vous fait trop de mal, vous pouvez toujours vous en aller. Mais sinon, vous pouvez vous dire que le fait que vous soyez là et que la personne ne vous dise pas de partir, c'est bien la preuve que déjà vous ne servez pas à rien. Et que bah, ce qui est compliqué avec la dépression, c'est aussi qu'on peut avoir tendance à être en repli sur soi et en intériorisation et en fermer les écoutilles. Bah, c'est une belle preuve de vulnérabilité, finalement, de faire une crise d'angoisse, d'anxiété, de dep et tout avec une personne, parce que ça veut dire que soit on n'a pas le choix et ça nous est tombé dessus, soit des fois on a confiance, quoi. Donc moi qui suis assez farouche sur mes émotions, j'ai déjà fait des crises d'angoisse, y compris dans des endroits publics, mais j'ai jamais, entre guillemets, ça n'a jamais été un spectacle visible parce que du coup je me barrais immédiatement. J'en avais parlé dans le live sur le Xanax, ce qui m'a fait réfléchir une des premières fois à ces histoires d'anxiété, c'est on était à un festival avec Fab, on buvait des coups en terrasse debout, il faisait hyper beau. J'avais bu une petite pinte fraîche, il y avait plein de gens que je connais, qui étaient contents de me voir, j'étais content de les voir. J'ai été commander ma deuxième pinte, je suis sortie avec ma deuxième pinte à la main, et j'étais là, ah non, il faut pas que je sois là, je peux pas être là. Vraiment, je ne peux pas interagir avec des gens, je ne peux pas, I cannot do that. J'ai filé ma bière à un pote, juste un big up. Et j'ai dit à Fab, je vais te récupérer les clés, parce qu'on partageait un Airbnb, et je vais rentrer, il était genre 20h, il était là, ok, d'accord. Et du coup, voilà, je me planquais, quoi. Donc, et parce que j'avais pas de personne dont j'étais assez proche pour partager ça à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que des fois, c'est une preuve de confiance et de vulnérabilité que la personne vous laisse, entre guillemets, être là quand ça arrive. Après, faut pas vous obliger. Encore une fois, vous êtes pas professionnel de santé mentale. Et si vous l'êtes, vous ne pouvez quand même pas être le psy de vos proches. Car vous êtes, leur proche et pas leur psy. Donc, faites comme vous pouvez. Mais c'est pas vous qui allez sauver / guérir la personne. Et pour l'anecdote, Justin dans le chat, qui est donc la personne à qui j'ai filé ma pinte avant de m'enfuir comme une voleuse de poule, n'avait absolument rien capté. Donc moi, j'étais en saturation maximale avec une tension extrêmement élevée et un BPM vénère. Et de l'extérieur, pour Justin, c'était moi qui lui dis « En vrai, je suis un peu claquée, je pense que j'ai envie de me coucher tôt pour profiter du festival. Mais du coup, j'ai pris une pinte, tu la veux ?» Et t'es là, ouais, free pint! Et voilà, fin de l'histoire. Fake it till you make it, n'est-ce pas? J'ai testé faire une crise d'angoisse XXL au taf chez des clients avec mon apprenti, j'ai fini planqué derrière une haie en PLS, c'était pas ouf, je valide pas. Ah bah, force le dragon et l'escargot, c'est très joli comme hâte. Oui, je veux bien te croire, et c'est un peu de chance, et aussi le fait que j'ai plus de travail salarié qui fait, je pense, que j'ai toujours pu à minima m'isoler le temps que le gros de la crise passe et ne pas la faire entre guillemets en public. Je sais que je connais des gens qui sont sujets à l'anxiété et qui ont un travail en open space et tout, c'est plus compliqué. Je pense que dédramatiser et rendre moins tabou la santé mentale, c'est aussi, je veux pas faire d'injonction, évidemment, vous me connaissez, donc je vais pas dire non, mais ça va raconter votre vie à tout le monde. Mais en fait, tout comme, tu vois, si t'avais fait une méga migraine ophtalmique chez des clients avec ton apprenti au taf, t'aurais dit, peut-être avec plus de liberté, j'ai une migraine horrible, il faut que je m'isole 30 minutes, mais je peux pas continuer, sans te dire, ça se dit pas, quoi, ça se dit pas, je suis au taf. Peut-être que peut-être j'extrapole, mais comme c'était un truc d'anxiété, on ose moins dire, en fait, là, je fais une crise d'angoisse, parce que c'est tabou, parce que les gens savent pas forcément quoi faire, parce que c'est méconnu et tout. Mais peut-être qu'à force de dédramatiser la santé mentale, un jour, on pourra dire, ah, petite crise d'angoisse, j'y vais. Et comme on dirait, par exemple, moi, ça m'arrive de dire, en vrai, j'ai mes règles qui sont en train de me buter, je vais rentrer, tu vois. Et ils ok. Si t'avais une diarrhée au taf, tu dirais, je vais aux toilettes, et tout le monde est ok et veut pas savoir. Yes, après, malheureusement, ça arrive encore fréquemment de devoir se planquer aux chiottes quand on fait une crise d'angoisse. Et je suis un peu en mode, peut-être qu'on pourrait ne pas, quoi. Je sais que c'est pas tous les jobs qui ont une salle de sieste, mais... Déjà, c'est pas marrant de faire une crise d'anxiété, c'est pas marrant de la faire sur les chiottes, quoi. Genre qu'on pourrait juste se mettre dans une pièce tranquille et faire ce qui nous fait du bien et peut-être aller fumer une clope si on est un connard de fumeur comme moi. Et après, c'est bon, ça passe, quoi. On dit, petite crise d'angoisse et puis ça passe. Ou pour aussi dédramatiser le fait de prendre un anxio. Mais ça, dans mes cercles, c'est des choses qui sont de plus en plus dédramatisées. Par exemple, je connais une personne qui est assez sujette à l'anxiété et tout. Je sais que si on va voir un spectacle ensemble, de type dans une salle fermée, c'est quelqu'un qui est pas mal agoraphobe, claustrophobe, je sais que cette personne va prendre un anxio probablement dans la file d'attente et c'est ok. C'est comme moi, je prendrais un doliprane parce que j'ai la crève, quoi. Voilà. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du Fab et Mimi Show et sur Patreon où je vais me remettre à publier plus régulièrement. Et pour celles et ceux qui avaient suivi l'aventure de ma newsletter All the Feels, elle revient aussi très vite. Et du coup, rendez-vous en podcast sur mes flux podcast aussi, puisque ma monteuse va reprendre du service. Love you, Pauline. Et ça va être chouette. Prenez soin de vous. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et un jour à la fois, ça va aller. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Hegel débrief les séries, tout simplement. M'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club.
Tous les liens sont dans la description. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée.